voici le premier journal avec vous, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le vote solennel du CETA aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne continue de diviser, notamment autour des enjeux climatiques. Analyse avec Marie Viennot dans un instant.
Précisément, alors que la jeune égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg, y tiendra aujourd'hui un discours au Palais Bourbon.
Et plusieurs parlementaires de droite et d'extrême droite boycotteront sa venue. Comment Greta Thunberg est-elle vue dans son pays, la Suède? Nous entendrons le journaliste suédois Magnus Fekel.
La Grande-Bretagne propose des mesures pour éviter que d'autres cargos ne soient arraisonnés par l'Iran.
Il s'agirait d'envoyer des croiseurs pour escorter les pétroliers européens qui traversent le détroit d'Ormuz. Dans ce journal également, aux Philippines, le procès de Maria Ressa, journaliste très critique envers le pouvoir. Et puis nous donnerons la parole aux familles des marins disparus dans le naufrage de la Minerve, alors que l'épave du navire a été retrouvée hier au large de Toulon, 50 ans après le naufrage. C'est aujourd'hui que le vote solennel pour le CETA a lieu à l'Assemblée nationale. Pour les députés En Marche et Modem, la consigne de vote est pour, mais plusieurs marcheurs ont déjà annoncé leur intention de voter contre ou de s'abstenir, quand d'autres réfléchissaient encore hier, alors que dans une tribune, Nicolas Hulot les exhortait à s'opposer à la ratification du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne hier. Tous les autres partis ont déclaré voter non au CETA. Parmi les arguments contre cet accord, celui d'un risque d'aggraver encore le réchauffement climatique. Marie Viennot.
Le CETA, comme tout accord de libre-échange, va augmenter le trafic entre l'Union européenne et le Canada et donc les émissions de gaz à effet de serre. L'impact sur les émissions mondiales a été évalué à 0,01%. En pourcentage, cela fait peu, disent les partisans du CETA, mais c'est toujours 2 300 000 tonnes de CO2 en plus, disent ses opposants. Alors oui, c'est vrai, le CETA mentionne l'accord de Paris dans une déclaration interprétative, car au moment de la négociation, l'accord de Paris n'était pas encore entré en vigueur. On lit « L'accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée de l'Union européenne, de ses États membres et du Canada ». Mais si ce n'est pas le cas, si le Canada s'en affranchit une fois le CETA ratifié, eh bien rien. Aucun recours n'est prévu. Rajouté lui aussi sur le tard, le veto climatique ne sera d'aucun secours, car ce veto encadre seulement, sans les empêcher, les plaintes que voudraient déposer des investisseurs canadiens s'estimant floués par un changement de législation dans l'Union européenne. Enfin, dans le chapitre commerce et environnement de l'accord, l'UE et le Canada reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement des dispositions prévues dans leur droit de l'environnement. Mais là encore, si les faits diffèrent des intentions, aucun dispositif juridique ne peut être saisi. C'est la grande différence avec les autres chapitres de l'accord, droits de douane, quotas, accès au marché public, dans lesquels les recours administratifs ou juridiques sont très clairement décrits en cas de non-respect. Voilà pourquoi le CETA, même s'il parle de climat, n'est pas un accord qui tient effectivement compte du climat.
Marie Viennot, pour approfondir les enjeux sur ce traité de libre-échange, un dossier complet à retrouver sur notre site franceculture.fr. C'est dans ce contexte que la jeune égérie de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg, prononcera un discours devant un parterre de parlementaires au cœur du Palais Bourbon. Une prise de parole qui a déclenché des réactions hostiles, en particulier chez le Rassemblement National et chez plusieurs députés Les Républicains, pour qui cette jeune fille de 16 ans n'est pas la bienvenue. Le combat de Greta Thunberg séduit les jeunes dans le monde entier, mais comment est-elle perçue dans son pays? Le journaliste suédois Magnus Falked est le correspondant du journal Expressen à Paris.
L'immense majorité des Suédois aiment beaucoup ce personnage et de Greta Thunberg, mais elle peut agacer certains. Est-ce qu'elle agace parce que c'est un enfant? Est-ce qu'elle agace parce qu'il y a certains complotistes qui voient derrière une sorte de manipulation telle qu'elle a exprimée le leader de l'extrême droite en Suède? Mais il y a beaucoup de choses qui fascinent le Suédois, cette droiture, cette intransigeance. Et puis, faut pas oublier qu'on est quand même un petit pays de 10 millions d'habitants qui a réussi à produire une icône planétaire qui fait la couverture de Times, qui voit le président, le pape, etc. Et évidemment, ce n'est pas sans fierté qu'on a une icône planétaire du climat.
Des propos cueillis par Capucine Jaffé, un article complet disponible en ligne sur le site de France Culture, franceculture.fr.
7h04, la suite du journal de Sophie Delpont. La Grande-Bretagne tente de trouver des solutions pratiques pour éviter de nouvelles crises dans le détroit d'Ormuz.
Après la saisie de son navire, le Stena Impero, vendredi par les autorités iraniennes dans cette zone hautement stratégique et théâtre de fortes tensions entre Téhéran et Washington. Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a annoncé qu'il va mettre sur pied une mission de protection maritime, Antoine Gignot.
Pas question de nouvelles sanctions vis-à-vis de l'Iran. Le gouvernement britannique veut à tout prix éviter d'aggraver la crise diplomatique et cherche toujours officiellement une solution pour que le Stena Impero et son équipage puissent reprendre la mer. Mais en parallèle, Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, annonce des mesures pour éviter que d'autres cargos soient stoppés par les forces de sécurité iraniennes. En clair, il s'agit d'envoyer plusieurs croiseurs dans la zone pour constituer une flotte capable de servir d'escorte aux pétroliers européens qui traversent le détroit d'Ormuz. Lors de la saisie du Stena Impero, un seul navire militaire se trouvait à proximité. Il est arrivé quelques minutes trop tard. Les gardiens de la Révolution avaient déjà pris le contrôle du bateau. Reste à savoir quels pays européens sont prêts à participer. Reste à savoir surtout si cette mission de protection maritime se fera en coordination avec les États-Unis qui, eux aussi, veulent déployer des bateaux militaires dans le Golfe.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est le jour J pour l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, dans la course à la succession de Theresa May. Le résultat du vote des militants conservateurs, pour lesquels il est le grand favori face à Jeremy Hunt, doit être annoncé dans la matinée.
Aux Philippines, c'est un procès aux couleurs politiques qui s'ouvre aujourd'hui, celui de la journaliste Maria Ressa.
Consacrée par le magazine Time l'année dernière, Maria Ressa est connue pour son travail très critique et ses enquêtes depuis 3 ans sur la politique du président Rodrigo Duterte. Depuis son élection, la police aurait tué dans le cadre de la lutte anti-drogue 6600 personnes selon les chiffres officiels, plus de 25 000 personnes selon plusieurs ONG des droits de l'homme. Le pouvoir reproche à la journaliste d'avoir enfreint la loi sur les médias, Nathanaël Charbonnier.
Dans un pays où la police est autorisée à tuer sans avoir à se justifier, il n'est pas indécent de s'interroger sur les raisons qui ont permis d'aboutir au procès de Maria Ressa. Pas indécent, d'autant qu'en l'espace de quelques mois, la journaliste a été victime de pressions en tout genre. Il faut dire que les autorités ont trouvé une soi-disant raison de l'entraîner devant les tribunaux. On lui reprocherait d'avoir financé son site d'information Rappleur avec des fonds américains, ce qui serait interdit par la loi philippine. La bataille qui s'annonce devrait être technique, alors que nombreux sont ceux qui pensent qu'elle est avant tout politique. D'après la défense de la journaliste, le président Duterte veut surtout la faire taire, mais pire encore, il voudrait en faire un exemple. Mais museler la journaliste de l'année 2018 du magazine Time n'est pas facile. Maria Ressa n'entend pas se taire, pas plus que ses avocats d'ailleurs, à commencer par celle qui vient tout juste de leur prêter main forte, à savoir la très médiatique avocate Amal Clooney, la femme de l'acteur Georges Clooney.
Nathanaël Charbonnier. 51 ans après sa disparition, le sous-marin La Minerve a été retrouvé au large de Toulon, à 45 km des côtes et 2370 mètres de profondeur. Les recherches avaient repris récemment après le feu vert donné par la ministre des Armées, Florence Parly, l'année dernière. L'épave a été découverte dimanche grâce au drone d'un navire américain. Pour les familles des 52 sous-mariniers disparus dans la catastrophe, c'est aujourd'hui un énorme soulagement, Fiona Mogadam.
Cela faisait 51 ans que Christophe Agnus attendait cette nouvelle. Tout comme les autres familles des 52 sous-mariniers, il avait multiplié les actions pour que les recherches de l'épave reprennent. Lui qui n'avait même pas 5 ans lorsque son père, le lieutenant Jean Agnus, chef machine de la Minerve, a disparu.
Depuis, je cherche à savoir pourquoi et surtout où il est. C'est ça la réponse qui est formidable, c'est qu'on sait maintenant où il est. L'incertitude de l'endroit était le pire, quoi. Et là, enfin, on va pouvoir mettre un endroit et faire une cérémonie et peut-être commencer le deuil qui n'a pas été possible depuis 51 ans.
Une question reste toutefois en suspens pour les familles. Pourquoi la Minerve va-t-elle sombrer en à peine 4 minutes? Hervé Fauve est le fils d'André Fauve qui était le commandant du sous-marin.
Sur ce plan, il faut être réaliste et on pense qu'il y a peu de chances qu'on ait beaucoup plus d'explications. J'ai vu les photos de l'épave et effectivement, il y a des endroits qui sont assez détériorés et épars sur le sol et il est difficile de savoir qu'est-ce qui a pu se passer.
D'autant plus que la Minerve ne sera pas remontée à la surface, comme le veut la tradition maritime. Les épaves sont considérées comme des sépultures sous-marines. La Minerve et ses 52 marins continueront donc de reposer au fond de la Méditerranée.
Fiona Mogadam pour France Culture. La météo marquée par la chaleur qui monte encore d'un cran aujourd'hui, du soleil, des températures qui dépassent déjà les 20 degrés à 7 heures partout en France. On atteindra 40 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 40 degrés à Agen et à Limoges. Rapidement, au cours de la matinée, Météo France annonce 30 degrés à Paris, 33 degrés à Bordeaux, quand on devrait atteindre 42 degrés, donc notamment sur l'Aquitaine. 59 départements sont en alerte orange canicule, situés sur une grande moitié du sud du pays, à l'exception de la côte méditerranéenne. Alerte canicule également sur le centre et jusqu'à l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté.